Salut Marquet Smart et bienvenue dans Talking Catch numéro 8, votre podcast de news sur le catch chaque mois ou à peu près quand on y arrive. Je suis accompagné une nouvelle fois par Ringside de l'équipe Catch-Up.
Salut les amis, salut Hank, ça va bien?
Ça roule. C'était un mois plein de news, de tourneboulements dans le monde du cash. Et donc on diffuse aussi ce Talking Catch pour la première fois, first ever, en live sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous voulez savoir quand on stream en live sur YouTube, on lit les commentaires aussi de temps en temps, si vous avez quelque chose à remarquer sur les news. Donc voilà, allez sur twitter.com/catchupcdc pour voir, enfin abonnez-vous pour voir quand on stream. Bref, on va passer aux news de ce mois, et la grosse news qui est en train de nous occuper pile au moment de ce podcast, c'est les oreillons à la WWE. Et oui, les oreillons, normalement on les a quand on est petit, mais à la WWE ils les ont quand ils sont grands. Ça a commencé avec Bo Dallas, en fait, qui est absent depuis quelques temps, hein. Je crois que ça fait 3 semaines environ qu'il est absent de Monday Night Raw. Et on a appris, donc du coup, par l'intermédiaire de Wrestling Inc., entre autres, que l'absence de Bo Dallas est due à une infection des oreillons. Et tous les catcheurs de Monday Night Raw ont été testés par le staff médical. Hélas, il semble que 3 de ces catcheurs ont été touchés, d'après un communiqué de la WWE. 3 de ces catcheurs, dont au moins 2 qui participent à TLC, le pay-per-view qui se déroule donc du coup là demain au moment où on enregistre ce podcast. Et ces 2 catcheurs, eh bien c'est Roman Reigns et Bray Wyatt. D'après du moins ce qu'on peut deviner, puisque Roman Reigns et Bray Wyatt sont retirés de la carte de TLC. Une grosse blessure pour le pay-per-view, hein, un gros manque. Et puis, la nouvelle derrière ça, qui peut-être encore plus impressionnante, c'est que Bray Wyatt sera remplacé par AJ Styles, le phénoménal, qui sera contre Finn Balor version citrouille. Finn Balor, donc ancien patron du Bullet Club. AJ Styles, ancien patron du Bullet Club. Donc du coup, si je ne me gourre pas, donc c'est Balor à l'époque, donc Prince DeWitt, qui a été viré du club le jour même où AJ Styles est venu pour prendre sa place en tant que patron. Donc on va revenir sur toute cette histoire, mais si Reigns n'est pas avec le Shield et Wyatt est sur le banc, Ring, ma question, enfin ou du moins une de mes questions, c'est où va-t-on dans les storylines. Et si vous voulez savoir plus nos réactions à chaud, on a fait aussi une vidéo directement sur la news à chaud, donc n'hésitez pas, sur YouTube.
Exactement, vidéo breaking news qui est sortie il y a quelques secondes. Et
là on regarde l'horizon. Comment
exactement. Et un petit coucou à Maxence OM du 62 qui est sur le chat.
Salut Maxence.
À toi. Voilà, bah gros coup d'arrêt du coup pour les storylines, hein, le Shield, la réunification du Shield, bah ce sera pas pour ce week-end. Voilà, plutôt le retour de Kurt Angle, donc voilà, dans la balance, hein, qu'est-ce qu'on préfère, le retour rusher du Shield ou l'arrivée inattendue, inespérée de Kurt Angle. Qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Peut-être une porte d'entrée pour Jason Jordan vers le main event, en passant par la filière papa. Sinon, plutôt une bonne nouvelle pour la grande intrigue autour de Bray Wyatt et Finn Balor, hein, parce que de toute façon, on n'avait pas vraiment envie de voir ce match. On l'a déjà vu et revu. Ça faisait très peur, cette histoire de Sister Abigail. Et un affrontement AJ Styles Finn Balor. Je pense qu'on est sur un dream match et qu'on aura peut-être le match de l'année s'il leur donne du temps, parce qu'il paraîtrait qu'il leur donnerait du temps quand même pour ce match-là. Donc ça pourrait être quelque chose d'assez
exceptionnel. Et attends de voir AJ Styles avec un voile et du maquillage.
C'est pas à l'abri.
Il va reprendre le rôle. Donc ouais, mais cette histoire de du shield, la reformation du shield, on peut deviner que bien entendu c'est une reformation qui est poussée par le entre guillemets problème Roman Reigns, et que c'était là un peu pour lui redonner un peu lui redonner de l'allure.
Ouais, un peu de
donc
pop.
Donc du coup là là c'est quand même un peu raté. Est-ce que pour toi bon c'est juste une bonne nouvelle, ou est-ce que Kurt Angle ça aurait été bien de le conserver pour autre chose? Est-ce que c'est logique finalement que Kurt Angle soit avec le Shield? Enfin, tu me diras, il déteste quand même le Miz, ça on nous l'a montré, mais
ouais, ils ont tout le kick-off toute la journée du week-end pour nous monter une histoire là-dessus. Ça partait de toute façon sûrement pour un Kurt Angle Triple H à Mania ou quelque chose comme ça. Alors bon, ça peut rester dans les plans, mais un coup de tonnerre comme ça, je sais pas, moi, une breaking news, on fait un peu voler les cartes. De toute façon, c'était pas non plus terrible ce qu'on nous proposait sur ce TLC. Les intrigues en général n'étaient pas non plus ouais, hyper spectaculaires. On était quand même sur un match un peu 5 contre 3, là, handicap match, c'était aussi un petit peu tiré par les cheveux. C'est peut-être pas plus mal ce qui se passe pour redonner un peu d'intensité à ce pay-per-view qui aurait été quand même, je pense, assez prévisible.
Et ils en ont même pas profité pour bumper Sasha Banks contre Alicia Fox pour remplacer le match de... Ça aurait été beau ça, 20 minutes.
Jamais...
Moi je veux 20 minutes de Sasha Banks contre Alicia Fox. Je pense que ça se termine en 100, hein. Mais donc voilà.
Jamais rentré dans les plans.
Ça c'était pour voilà pour la news à chaud. Mais on en reparlera sûrement plus tard dans Monday Night Raw, dans le catch-up Raw qui viendra la semaine prochaine.
News. Maxence. Ah oui. Vas-y. Coupe. Il nous propose un Kurt Angle contre le Miz au Royal Rumble. Tour du titre ici.
Oui. Ah oui. Oui, oui.
Ah, on serait pas contre, hein, de toute
Pourquoi
façon.
Pas,
tout avec Kurt Angle qui se retape tous les...
De toute façon, le Miz, il refera toutes les soumissions de Daniel Bryan et puis voilà, on sera content.
Ouais.
Alors, l'autre grosse news de ce mois-ci, enfin, du dernière semaine, c'est Adrian Neville qui s'en va de la WWE. Il s'en va et c'est tout sauf officiel, mais la news est sortie du Pro Wrestling Sheet de base. Et donc, il a quitté la WWE, enfin du moins il est parti en colère de l'arène de Monday Night Raw dans la journée du 9 octobre, avant un Raw qui devait le voir affronter Enzo Amore. Probablement pour le titre, hein, puisque ce soir-là, ça a été remplacé par Enzo Amore contre Kalisto pour le titre. Neville, je rappelle pour les gens qui le connaissent pas trop ou qui connaissent pas trop la carrière, donc champion cruiser jusqu'à peut-être une semaine avant son départ, star de 205 Live, hein, c'est un peu celui qui ramenait les audiences, même si 205 Live fait pas des grandes audiences, voilà. Il avait commencé sa carrière donc à NXT en 2012, ancien champion NXT en tag team avec Oliver Gray, les premiers, hein, à avoir reçu le titre tag team de NXT. Champion aussi avec Corey Graves et donc voilà, les rumeurs à droite à gauche disent que voilà, il était pas satisfait du booking.
Hein, il était champion NXT aussi.
J'ai mis champion NXT au début.
Okay,
non. Attendez, champion cruiser. J'ai oublié de marquer et champion NXT. Oui, voilà, il a été champion NXT en battant à Bo Dallas. Tu crois ? Si je ne me gourre pas.
Il avait battu Bo Dallas.
Oui, dans un ladder match.
Effectivement.
À l'époque où Bo Dallas était pas un mauvais catcheur.
Il
y avait des bons espoirs.
Star potentiel. Hein.
Donc voilà, pas satisfait du booking, peut-être de la décision d'avoir mis Enzo Amore comme champion, hein, parce que c'est un peu l'anti-cruiser. Et donc, du coup, toi, Ring, est-ce que si t'avais à expliquer ce départ, est-ce que c'est aussi simple que Enzo Amore champion? Est-ce qu'il y a d'autres choses que t'aurais remarqué avant? Une frustration d'être dans les cruisers alors qu'ils se considèrent peut-être enfin, du calibre pour être dans les heavyweight. Qu'est-ce que t'en penses?
Oui. Ouais, pour moi, c'est anecdotique, je pense, le fait que Enzo l'ait détrôné en tant que champion. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Effectivement, je pense qu'il n'était pas du tout content d'être labellisé 205 Live et avec les Cruisers, même si il a pu avoir la ceinture pendant un certain temps. Mais il y a d'autres choses qui se sont passées. Son match du kick-off de WrestleMania qui a été retiré du DVD. Donc ça fait des
Ah oui, il y
royalties en
avait ça.
moins. C'était son match contre Austin Harris, hein, étant donné qu'Austin Harris était parti, et ils ont viré le match des DVD, et ça fait des royalties en moins. Le fait qu'il perde la ceinture de Cruiser, ben, ça veut dire aussi qu'il va peut-être pas participer à des pay-per-view. Donc ça fait aussi de l'argent en moins. Et je pense qu'à partir de là, étant donné le potentiel qu'il avait, les ambitions qu'il avait, il a eu un appel du pied du Bullet Club, hein, via Twitter, hein, qui lui a proposé de rejoindre le camp, plus ou moins. Donc voilà, il a le Japon qui lui ouvre les bras, le Bullet Club qui lui ouvre les bras. Il y a moyen effectivement, de nos jours, de se faire pas mal de pognon sur le secteur indie et sur le secteur international. L'univers anglais du catch est vraiment très productif en ce moment. Il y a des fédérations de partout, des salles sont remplies un peu partout. Il peut s'incruster à peu près dans tous les main events, je pense, de toutes les fédérations, que ce soit la Progress, Nitzen, Championship Wrestling. Il y en a des plâtrés, hein, des fédérations en Angleterre qui cartonnent. Plus la New Japan, plus pourquoi pas la Ring of Honor si ça peut fonctionner. Donc je pense que voilà, il a vraiment quelque chose d'assez ouvert. Cody Rhodes a prouvé, hein, qu'on pouvait, en se levant le cul, faire une sacrée carrière chez les Indies. Et Neville, il a quand même encore peut-être beaucoup plus de talent que Cody Rhodes au niveau catch spectaculaire. Il a prouvé aussi qu'il pouvait créer un personnage percutant. Donc voilà, s'il n'était pas heureux à la WWE, et puis qu'il a pense se faire peut-être plus d'argent chez les indépendants. Voilà, je pense que ça tient à ça. Après une victoire, enfin une défaite plutôt contre Enzo, si quand t'es catcheur, t'es pas capable d'encaisser une
Oui,
défaite,
non, ça, ouais.
tu fais pas ce
Je
métier-là.
pense
Hein,
que, enfin, si ça avait été une des raisons, je pense pas que c'est tant une défaite contre Enzo, mais c'est le fait d'orienter le show vers, comment, de mettre, oui, voilà, de mettre juste Enzo en champion et de passer le temps, et puis de, peut-être, après là, les storylines commencent à s'améliorer, mais peut-être aussi la fainéantise de ceux qui écrivent les scénarios à 205 Live, qui a dû faire que voilà, il en avait assez. Et pourtant, bon, après,
Il
ça
n'a pas
reste.
aimé son t-shirt aussi. Ils ont sorti un t-shirt. Il n'était pas convaincu du design. Donc voilà aussi, hein, royalty sur les ventes de produits dérivés.
Et comment? Il y a cette idée aussi, après, bon, on peut pas savoir l'avis du grand public, mais quand même, quand on regarde les médias catch ou les podcasts, ou même les avis sur Internet, sur YouTube, etc., tous les fans de catch sont convaincus que Neville mérite d'être dans le roster principal. Il constamment fait des très bons matchs cette dernière année. On sent qu'il fait des efforts, il varie la façon dont il a pris son virage heel, il a vraiment refait son moveset. On voit quand même que c'est un gars qui a fait tellement, tellement d'efforts pour convaincre, et il a convaincu, hein. C'était la seule vraie grande star de 205 Live finalement, qui arrivait à convaincre même quand 205 vient à Monday Night Raw et que normalement, enfin au début de 205, tout le monde s'en foutait. Quand Neville était là, le public était quand même un peu plus réactif. Donc c'est sûr, oui, il a un potentiel énorme dans les indés. Et apparemment, oui, les cruisers, je sais plus où j'ai lu ça, mais les cruisers sont vraiment. La paye des cruisers est assez ridicule par rapport au roster principal. C'est quand même.
Moi, ça, je veux bien le
Ça,
croire.
ça de, je pense, c'est entre moitié ou trois fois moins, un truc du genre. Donc, Donc voilà.
C'est pas pour rien, je pense qu'ils n'ont pas signé Kota Ibushi, ouais, Zack Sabre Jr., etc. Hein, c'est que peut-être que ça c'était pas assez bien payé. Voilà, donc après, tu te retrouves avec TJP et Arya Daivari. On a des petites questions sur le chat. Maxence qui nous demande si tout ça n'est pas un work pour qu'il quitte 205 Live et aller à SmackDown. Par exemple, non, il a claqué la porte, hein, Neville. C'est pas un work du tout.
Si c'était un work, ça aurait été filmé. Enfin, je veux dire, son départ aurait été filmé, où on nous aurait mentionné le nom de Neville la semaine d'après en disant, il est parti en colère par rapport à je sais pas quoi. Mais non, les work, c'est pas, ça se base pas sur du silence pendant 3 semaines, les work.
C'est ça. Oui, non, c'est... Effectivement, il y aurait eu une mention, ça ne se serait pas fait. Je crois qu'ils ont même pas qu'ils en ont parlé sur leur site internet.
On parle de ça depuis tout à l'heure. La WWE a toujours pas, à ma connaissance, communiqué le départ de Neville officiellement. Donc,
mais c'est la procédure un peu normale quand ils veulent partir. Ils vont être écartés des écrans, puis au bout d'un moment, ils vont le laisser partir. Mais...
Puis il doit y avoir une négociation pour les...
C'est ça. Et on a aussi Anonyme qui nous parle d'une éventuelle reconversion vers l'UFC. Ça réussit pas trop hein, au Star to Catch. Hein, on a vu CM Punk.
Ouais, c'est plutôt dans le sens inverse. Enfin bon, il y a quelques exemples. Batista, qui en a eu.
Alors, Batista, il a fait une école, mais il a fait un match contre un plombier. Ça s'est arrêté là. Hein. Il a pas.
Ouais.
Enfin, si t'as Bobby Lashley qui a plutôt bien marché. Mais il faut un sacré background derrière. Pour Neville, je pense pas que ce soit dans ses objectifs.
Oui, puis ça demande tellement. C'est beaucoup plus risqué quand même hein, de partir à l'UFC parce que non seulement c'est un vrai sport, mais aussi c'est des dépenses et des dépenses et des efforts pendant des mois pour arriver au chèque quoi, pour arriver à la paye. Ça demande, même si la WWE c'est un emploi du temps de fou, etc., il en reste qu'à la fin du mois tu sais que tu vas être payé. Enfin, à l'UFC, tu sais aussi que tu vas être payé, mais si tu perds 2 fois de suite à l'UFC, c'est... dégage. À moins que t'aies une belle carrière, à moins que t'aies une belle carrière derrière, ou voilà une image de star. Mais même avec une image de star et tu perds, voilà, CM Punk, il est pas, on lui a pas laissé la porte ouverte, hein. Pour l'instant, on sait toujours pas ce qu'il fait d'ailleurs. CM Punk revient au catch, arrête tes conneries. Bon.
Discute avec le répondeur de Dana White en ce moment. C'est ce que je vais en faire un match.
Non, si, il fait des comics. Alors ça, c'est génial. Il est passionné par les comics. Alors il fait des scénarios de comics. Ça intéresse tout le monde. Passons à la troisième news. À moins qu'il y ait une autre question. Non.
Non. C'est
ok,
tout.
Troisième news. Rêver, hein. C'est justement, on parlait tout à l'heure de départ possible de Neville au Bullet Club. Et c'est le Bullet Club contre la WWE, contre Jimmy Jacobs. J'ai intitulé ça un merdier sans fin. Vous allez savoir si vous connaissez pas Jimmy Jacobs, vous allez savoir. Donc, le 25 septembre dernier. Le Bullet Club a eu la riche idée de reproduire la célèbre invasion de D-Generation X à WCW Nitro en squattant le parking de Monday Nitro avec un mégaphone, distribuant des t-shirts et appelant à la libération de leurs anciens potes du club, hein, que ce soit Luke Gallows, Carl Anderson, Finn Balor. Donc on trouvait dans ces joyeux drilles, il y avait Cody Rhodes, il y avait les Young Bucks, il y avait Marty Scurll. Ils ont aussi appelé les fans à les soutenir dans leur bataille pour continuer à utiliser le Too Sweet et le Suck It, etc. Parce que on sait qu'il y a des tensions avec la WWE vis-à-vis de l'utilisation de ces gimmicks. Puisque les Young Bucks c'est des spécialistes hein, depuis des années, c'est des spécialistes pour récupérer des vieilles gimmicks et ils les remettent un peu à leur sauce, mais ça reste voilà, ils sont un peu nostalgiques de ces années-là et puis ils en jouent beaucoup. Et donc toute cette après-midi a été filmée pour un épisode de The Elite, la série YouTube, donc du coup qui suit les personnages principaux du Bullet Club dans leur tournée, ça mélange des promos et des vrais moments. Une bonne blague pendant laquelle le club a croisé Jimmy Jacobs. Qui est Jimmy Jacobs? Bah, c'est un membre, c'était un membre de l'équipe d'écriture de Monday Night Raw, mais aussi ancien champion de la Ring of Honor, 5 fois si je ne me trompe pas, donc vieil ami des Young Bucks. Et sans réfléchir, Jimmy Jacobs, au moment où il a croisé ses anciens potes, il a fait « Hey les gars, si on faisait un selfie !» Et donc il a fait un selfie, puis il a posté sur Instagram. Et les conséquences de tout ça, c'est que les avocats de la WWE, d'abord, ont envoyé ce qu'on appelle un « cease and desist » aux Young Bucks. Donc c'est une ordonnance, en fait, d'avocats qui demande généralement l'arrêt d'une action, etc. Donc en clair, là, ils leur demandent d'arrêter d'utiliser les gimmicks empruntés à WWE, surtout le « two suite », qui est emprunté à la clique, enfin à Triple H. La lettre donc demandait jusqu'à 150 000 dollars pour chaque produit utilisant le gimmick. Et la WWE a breveté le logo et le terme Too Sweet depuis mars 2015. On suspecte que peut-être là c'était le moment où ils avaient le droit maintenant. Enfin, je sais plus, le brevet a peut-être été accepté. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont attaqué à ce moment-là. Et quant à Jimmy Jacobs, il a été purement et simplement viré de la compagnie une semaine plus tard.
Delete.
Sans communiqué officiel, on ne sait pas s'il avait d'autres casseroles sur le dos ou si c'est juste à cause de ça. Donc du coup, j'ai noté aussi, le club a pas l'air d'en souffrir trop, ils en ont profité pour faire un t-shirt season desist. Ils ont ouvert, il n'y a pas très longtemps, ça c'est une autre mini news, il y a 2-3 jours, ils ont ouvert le premier Pro Wrestling Tees shop à Chicago. Donc Pro Wrestling Tees, c'est la plus grosse boutique de t-shirts de catch indé au monde, hein, finalement. Et c'est, on va dire, la majorité des revenus de Pro Wrestling Tees, c'est le Bullet Club, hein, c'est les Young Bucks et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses dans cette news.
Il y a à boire et à manger dans toute cette histoire.
Ma première question, c'est est-ce que la WWE est en son droit de harceler le Bullet Club, même s'ils vont les recruter un par un par la suite, entre parenthèses, Balor, AJ Styles et dernièrement Adam Cole, baby, à NXT.
Eh ouais. Adam Cole, baby. Ils sont dans leur droit, bah oui, s'ils ont les trademarks sur les signes et tout ça. Est-ce que c'est judicieux de le faire? C'est la question. Ça fait de la pub plus qu'autre chose au Bullet Club qui réagit toujours comme il faut à chaque réplique de la WWE. Le licenciement de
Jimmy
Jacobs, c'est quand même un peu ça va quand même un peu loin, mais bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait derrière, parce que c'est un peu fort de café quand même de le virer juste pour un selfie et de y avoir d'autres histoires. Ça, c'est plus emmerdant, parce qu'apparemment c'était quand même un des bons au niveau des writers de Raw, parce qu'apparemment c'était lui qui était à l'origine de tout ce qui était le festival de l'amitié, hein, de Kevin Owens, le dernier run de Chris Jericho. Apparemment il était vraiment pour beaucoup là-dedans, hein. Chris Jericho l'a défendu là sur le podcast en expliquant qu'il voulait travailler uniquement avec Jimmy Jacob à l'époque, hein. On lui proposait des choses mais il les refusait, il avait demandé expressément à bosser avec lui, donc c'était apparemment quand même une bonne force créatrice d'Euro sur l'année ou les 2 années qui viennent de s'écouler, plutôt sur les bons trucs. J'ai peur qu'on ressente son départ quand même à lui. C'est peut-être ça qui fera le plus de mal que le courrier qu'ils ont envoyé aux Young Bucks, qui eux ont géré ça de main de maître, hein, en jouant la carte de l'œuvre de charité pour vendre les surplus de t-shirts. Ils ont réenchaîné allez, on fait plus le tout de suite, on fait le petit geste juste d'un doigt, voilà, comme ça c'est vite chamboulé. Ils sont un peu inquiétés peut-être d'un procès de la part de Steven Spielberg, hein, parce que c'est un peu le geste d'IT, ça. Mais voilà, ils ont fait tout un angle au dernier show de la Ring of Honor, voilà, en jouant, en faisant venir Jimmy Jacobs, en shootant un peu sur la WWE, sur Roman Reigns. Eux, ça leur a fait de la pub, ça n'a jamais aussi bien marché que maintenant, la Ring of Honor. Et les Young Bucks, ils sont en train de se monter un business qui est assez incroyable. Et tout ça, effectivement, comme tu le dis, sûrement pour être signé d'ici 2 ans. Mais après, est-ce que c'est pas aussi un truc de la WWE de leur faire de la pub exprès, de les faire monter, comme ça le jour où ils les achèteront, ils les auront pas payés pour rien. Les mecs sont vraiment très 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 connus. Ce qui commence maintenant à être des sacrés piliers du catch international. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas même dépasser quelque part la notoriété de la WWE qui est un peu plutôt en train de se tasser à travers le monde. En tout cas, tout ça, c'est passionnant à suivre. Mais je pense que le gros point noir, c'est quand même le fait d'avoir viré Jimmy Jacobs. Ça, j'ai peur qu'on le ressente dans les Raw sur les mois qui viennent.
Mais ouais, c'est un peu comment on appelle ça, pas passif agressif, mais en fait c'est c'est leur manière d'agresser, enfin c'est comme si peut-être la WWE en fait c'est deux entités séparées entre tout ce qui est voilà, tout ce qui est légal, marketing, et puis de l'autre côté
ouais.
les créatifs et ceux qui embauchent les catcheurs. Et donc du coup il y a cette espèce de division où d'un côté ça tape sur les doigts et de l'autre côté ça courtise de Ring of Honor, en veux-tu en voilà quoi. Maintenant c'est je vais dire la moitié des mecs qui sont embauchés à NXT viennent de Ring of Honor maintenant.
Ah, ils ont siphonné les main eventers de la Ring of Honor, mais ça a jamais aussi bien marché la Ring of Honor au final. Ils ont récupéré Cody Rhodes. Alors c'est peut-être pas les meilleurs shows qu'ils aient produits depuis des années, mais en tout cas ils font des sales combles et ça fonctionne du feu de Dieu. Leur partenariat avec la New Japan, ça fonctionne bien aussi. À chaque fois qu'ils font venir des Japonais, là ça fait du buzz. Non, il y a une gestion vraiment très intelligente de la part de tout ce collectif là du Bullet Club pour faire vivre un espèce de catch alternatif à la WWE qui fonctionne du feu de Dieu. Hein.
Et si vous n'avez pas vu la vidéo de The Elite, donc du coup de cette invasion, je la mettrai en lien dans la description, mais voilà, c'est très très drôle. Hein. Il y a Cody Rhodes qui refait un discours de Independence Day. qui est magnifique. Et voilà, oui, c'est sûr qu'ils s'amusent beaucoup en général dans les vidéos avec les gimmicks ou les réactions de la WWE, dont celle, là, dans la dernière vidéo The Elite, dont celle de Roman Reigns au tweet un peu ridicule de Cody Rhodes, où Cody Rhodes a dit « Je suis the biggest draw », donc l'attraction la plus importante au monde, dans le monde du catch. Et Roman Reigns a répondu, enfin il y a quelqu'un qui a retweeté le truc à Roman Reigns et Roman Reigns a répondu le jour où il remplira, enfin si c'est pas une salle de 100 000 personnes, moi ça, enfin il dit de la merde. En clair, il parle de WrestleMania qui, comme chacun sait, a toujours des chiffres trafiqués. De toute façon,
tu peux pas gagner, c'est David contre Goliath quoi. Les Young Bucks, ils viennent avec leur bite et leur couteau, et ils viennent affronter la WWE, ils arrivent carrément à armes égales, ils gagnent même à chaque fois les bras de fer.
Est-ce que c'est
tu
la
peux
même...
pas être du côté de la WWE.
Oui, mais est-ce que c'est la même stratégie finalement est-ce que finalement Roman Reigns, il est pas en train de jouer lui aussi s'amuser avec eux, ou alors est-ce qu'il est premier degré, bon. Qui sait, parce qu'il avait aussi, il avait aussi fait une remarque.
Les uns les autres, hein.
Il avait aussi fait une remarque sur l'invasion. Il avait aussi tweeté sur l'invasion, comme quoi on n'est plus, enfin les mecs sont restés coincés 20 ans en arrière ou quelque chose comme ça. Donc bon, qui sait.
Il est aussi obligé d'avoir cette attitude Roman Reigns parce que c'est le poster boy de la WWE.
Oui.
C'est censé être quand même le nouveau John Cena, c'est censé lui qui est censé représenter la WWE, donc il faut qu'il soit aussi quand même dans cette idée-là. Quand il va tweeter, il peut pas jouer le mec cool à dire ah ouais les gars vous êtes c'est super la WWE c'est des nazes, tu vois, ça peut pas, il est obligé d'avoir cette stature-là de peut-être la WWE essayer de les casser, mais après c'est super chaud parce qu'ils sont extrêmement doués les gaillards.
Et passons à la quatrième news qui est une méga news. Que j'ai intitulé, avant j'appelais ça TNA dans la merde, mais maintenant je vais appeler ça Global Force Clusterfuck, votre condensé de news de la TNA slash Global Force slash Impact Wrestling. Donc, ça a commencé, enfin en tout cas les news depuis le dernier Talking Catch, ça a commencé avec Jim Cornette qui était de retour à la TNA début septembre. En tant que... alors, est-ce qu'il était general manager ? Je ne sais plus.
Oui, il avait un personnage de general manager.
Voilà, il avait... general manager. Bon, il avait signé un contrat pour quelques dates. Hein. C'était pas non plus...
Il s'est bien défendu d'être un salarié de la TNA. Mmh. Hein. Il a dit, moi, je viens juste faire une pige. Hein. Allez, donc, pas me mettre ça sur le dos.
Il était là un peu pour booster un peu l'excitation pour le prochain pay-per-view Bound for Glory là, qui doit se passer en novembre. Était prévu ce Bound for Glory à Orlando, en Floride, donc le 5 novembre. Sauf que la TNA ou Global Force, ou que vous pouvez l'intituler comme vous voulez, a finalement décidé de partir pour Ottawa, au Canada, là où siège le propriétaire de Impact Wrestling, c'est-à-dire Anthem. Donc c'est Anthem, c'est une entreprise qui a plusieurs chaînes tournées vers le combat. Le lieu donc du coup sera l'Aberdeen Pavilion qui fait 2800 places normalement, enfin sans le ring, donc je saurais pas vous dire, mais et ça sera utilisé pour 6 nuits, une nuit pour un pay-per-view, 5 nuits pour l'enregistrement des shows. Cornette ayant quelques soucis administratifs hein, avec le Canada, d'après ce qu'il racontait dans son podcast, bon, on sait pas ce qu'il a fait là-bas, mais en tout cas, il peut pas y revenir tout de suite. Et en plus, ayant été au courant de cette news, ce changement d'endroit par les médias, hein, c'est pas le staff de Global Force qui l'a prévenu, il a été au courant en regardant un site de catch, quoi. Et ben, il était un peu perdu, mais il a été quand même sympa. Il les a contactés, il a fait « Bon, les gars, je serais bien capable de faire une petite vidéo promo. Il voulait tourner ça à Nashville, je sais pas pourquoi, mais... » Et donc, du coup, une petite vidéo, l'histoire de réparer le truc. Et il a pas eu de réponse. Et finalement, il a abandonné. Et donc, du coup, il a décidé de quitter une nouvelle fois. Enfin, alors... Bon, il avait pas signé un vrai contrat, mais en tout cas, il a décidé d'abandonner cette dernière collaboration avec TNA, Global Force Wrestling, tout ça. Donc, ça, c'est la première news. La deuxième news, c'est plus du contexte. Donc, du coup, si vous avez pas compris pourquoi j'arrête pas de parler de Impact, Global Force, machin et truc, en fait, c'est que la promotion a changé deux fois de nom depuis cet été. D'abord, donc, du coup, c'était Impact Wrestling. Ensuite, c'était Global Force Wrestling, donc, vers la rentrée, je crois. Et maintenant, donc, du coup, c'est retourné à Impact Wrestling. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas breveté le nom Global Force Wrestling. Donc voilà, hein. C'est toujours, ouais. Toujours aussi professionnel.
Du beau boulot.
Comment qu'on fait du pognon avec Impact Wrestling ? Eh ben, on fait des Pizza Impact. Eh oui, un nouveau partenariat a été établi entre Impact et Crust & Crate. Donc du coup, une marque, je sais pas si c'est une marque canadienne, mais en tout cas, ils ont lancé le truc, je crois, là-bas. Donc du coup, une Impact Pizza qui sera commercialisée uniquement chez Crust & Crate. Bobby Lashley et le champion Impact Eli Drake ont été obligés pendant la conférence de présentation de manger une part de cette pizza. disponible en trois versions, hein, je ne vais pas vous détailler tout, je vous mettrai bien le visuel, mais là, entre mes fiches et tout ça, n'hésitez pas, hein, si vous allez sur impactwrestling.com. Vous tapez Impact Pizza dans Google, vous verrez.
Mais n'en mangez pas. Hein.
Toutes les variations. Et il y a même des boissons Impact. Donc voilà. Et la dernière news, un petit peu plus intéressante quand même, c'est que Anthem a lancé officiellement le 17 octobre le WWE Network, donc du coup de la TNA, qui s'appelle le Global Wrestling Network. Le principe, c'est que vous pouvez vous inscrire gratuitement pour suivre les derniers shows d'Impact Wrestling ou prendre un abonnement de 5,99$ par mois et accéder aux archives et aux pay-per-view, si j'ai bien compris. Donc pour l'instant, le service ne fonctionne que sur Android, iOS et navigateur Internet, mais bientôt, ils annoncent que ça sera sur Apple TV, Xbox et Amazon Vidéo. Alors, bon,
Je dis.
tout ce qui est le bordel qui était juste avant, je pense qu'on aura le même commentaire que d'habitude. J'ai plus envie de te demander ce network, est-ce que ça t'intéresse Ringside, et est-ce que finalement c'est pas la meilleure nouvelle de l'année pour
Moi,
Impact?
j'aurais préféré que les archives soient rachetées par la WWE et intégrées au WWE Network. Parce que Impact Wrestling, c'est quand même pas très regardable. C'est quand même, on reste sur du WWE qui est vraiment pas très intéressant. J'irais pas mettre des thunes pour avoir les archives de la TNA et de l'époque, même s'il y a quelques grands matchs hein, quand même hein, qui ont été faits les belles époques 2005 où il y avait AJ Styles, Samoa Joe, Motor City, Machine Gun, Christopher Daniels et compagnie. La grande époque de la X-Division, mais c'est tout quoi. Après le reste, j'irais pas mettre des thunes là-dedans. Et je suis pas sûr que ça va être rentable pour eux. Hein. Ils ont refusé de les vendre à la WWE, toutes ces archives, parce qu'ils pensaient pouvoir en faire du pognon eux-mêmes. Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ils le voudraient. Et j'avais entendu au Wrestling Observer une interview assez longue d'un des dirigeants de la Global Force Wrestling, de l'Impact Wrestling, détaché de Anthem, là, qui était au bord de la dépression hein, quand il nous expliquait ce qu'ils étaient en train de faire. Hein. C'était pas un spécialiste du catch, hein. C'est un spécialiste du sauvetage d'entreprises rachetées par le conglomérat d'Anthem. Il expliquait bien que le milieu du catch, c'était sûrement l'endroit le plus. Enfin, le business le plus compliqué qu'il avait eu le malheur d'expérimenter dans sa carrière. Effectivement, ils avaient des ambitions qui sont incapables d'atteindre pour des questions d'ego, des questions de personnalité et puis d'autres trucs. Ben, comme on voit là, on change à la dernière minute un pay-per-view de place et puis on perd une des stars de la promotion qui claque la porte comme ça, sans plus de raison. On est toujours, voilà, on est toujours en animation, comment dire. Les sous-respirateurs artificiels, quoi, toujours, hein, Global Force Wrestling. Hein, comment s'appelle-t-il? Jeff Jarrett s'est barré. Apparemment, il est tombé dans l'alcool de nouveau. Il a réussi à revendre sa petite compagnie Global Force Wrestling, là, qui n'arrivait pas à faire perdurer. Et c'est quand même lamentable qu'avec un spot TV comme ils ont, hein, y a pas mal de fédérations de catch qui se battraient pour avoir le spot qu'ils ont là à la télévision. Ils n'arrivent rien à faire, et ça depuis des années. C'est quand même assez lamentable tout ça.
Moi, ce qui me donne espoir, du moins pour le futur de la compagnie, en fait, c'est que comme ils proposent les shows directement sur leur service de streaming, contrairement à la WWE, enfin, la
Ah, mais t'as un
WWE,
délai, hein. C'est une dizaine de jours après la présentation.
pour Impact, c'est une dizaine de
Ouais.
jours? Ah, quand même.
Ouais.
Ouais, bah, c'est vrai que ouais. Mais bon, à la WWE, c'est, je crois, 2 mois. Hein, donc,
Oui, c'est assez long. Ouais.
mais moi, à la limite,
Ah, mais
l'espoir que j'ai.
le budget TV, la pub TV, c'est le nerf de la guerre à la WWE.
Ouais.
Hein. Donc ça.
À la limite, l'espoir que j'ai, bon, je sais pas si une fédération de catch peut se sustenter, de survivre à base d'abonnements sur Internet. Mais. Leur network, ça leur offre une espèce de plateforme, je pense, de sécurité, de filet de sécurité, sachant qu'ils ont changé quand même souvent de propriétaire, ils ont souvent eu des problèmes avec les chaînes, ils ont souvent eu des chaînes qui voulaient changer leur patron, voilà, ils n'ont pas spécialement eu des super rapports. Bon, là, en ce moment, apparemment, ça se passe bien, mais ils n'ont pas forcément eu des super rapports avec toutes les chaînes qui les ont accueillis. Donc, si finalement ils se transforment en comment ça s'appelle déjà bah, What Culture Pro Wrestling, si tu vois ce que c'est.
Ouais,
What
mais
Culture Pro Wrestling.
c'est
Après, c'est très très amateur et il fonctionne que en je sais plus comment je crois qu'ils faisaient que des pay-per-view au début et maintenant ils font une émission de
Ouais.
temps en temps.
J'ai l'impression qu'il y a une émission hebdomadaire. Alors,
Ouais.
je ne sais pas comment ils survivent depuis que c'est plus monétiser les vidéos de catch sur YouTube.
Non,
Mais
ça
apparemment,
dépend
ils
en
sont
fait.
débloqués.
C'est un peu. Apparemment, ça n'a pas touché tout, mais ce qu'ils font, je crois qu'ils ont un service privé en fait en dehors de YouTube. Après, ils ont une retransmission, ils ont une rediffusion plutôt à travers des vidéos uploadées sur YouTube. Mais je crois que leur live de base en fait, il est sur leur site et donc du coup, c'est pas un lecteur YouTube. Ils ont un abonnement qui est pas très cher, je crois que c'est 5 balles par mois ou 5 livres.
Après, eux, ils remplissent des salles, quoi, si tu veux.
Oui.
Pareil pour toutes les fédérations en Angleterre qui ont aussi par exemple, la Progress, elle a aussi un site de streaming avec un abonnement. C'est au niveau de la production, on n'a pas le niveau de qualité qu'on a à TNA, mais faut Impact Wrestling. Mais par contre, les salles sont remplies. Ils ont une fanbase qui est très forte et ils ont du merchandising à gogo. Impact Wrestling, ils ont rien. Je pense que les gens qui sont dans le public, ils viennent là gratuitement. Et puis, y a pas, je pense pas qu'il y ait un merchandising de fou à TNA, enfin à Impact. Personne n'a des t-shirts en thème, quoi. Donc, c'est vraiment un truc qui perd de l'argent et ils n'ont pas du tout trouvé la formule pour que ça fonctionne. Et puis en plus, ils fonctionnent pas comme une fédération de catch standard à écumer les routes et à remplir des salles et puis à se créer des fanbases. Hein. On a vu des vidéos là où ils se jouaient WWE, tu avais personne quoi dans les stades. Donc voilà, c'est juste que ça fonctionne pas et qu'à un moment donné, il faut arrêter. Mais ils finiront par mettre la clé sous la porte parce que c'est toujours pas rentable. Hein. Ils continuent à perdre de l'argent.
Après, ils arrivent toujours à trouver une entreprise pour les racheter. Donc, un jour, peut-être, ils tomberont à court d'entreprises qui ont envie de perdre de l'argent. Mais donc, voilà. On va passer donc à la news numéro 2 et 3 et 4 et 5.
Alors, Anonyme nous dit qu'elle
Ah oui.
déconne hein, pour
Oui,
le
j'ai vu
Neville
ça.
à l'UFC.
J'ai vu
Hein.
ça. Ben, c'est pas
Pas
grave,
déconner avec
ça
ça.
nous a occupés pendant 3 minutes, merci.
Hein.
La dernière news, mini news, hein, c'est la Ring of Honor qui annonce le deuxième nom de sa supercard Honor 12 à la Nouvelle-Orléans en 2018. On avait déjà confirmé Hiroshi Tanahashi, le tenant en titre du IWGP Intercontinental Championship. J'adore ces Japonais avec leur nom de titre qui dure 3 ans. Et donc, ce deuxième nom pour la Supercard Honor 12 qui se déroulera le samedi 7 avril 2018, le week-end de WrestleMania, n'est autre que Kenny Omega, The Cleaner. Donc du coup qui est toujours IWGP United States Heavyweight Champion et of the world et donc voilà on voit au moins au début de cette carte que il y a un investissement je pense bien plus grand que l'an dernier de la New Japan et que ça je crois que l'an dernier il y a eu des catcheurs de la New Japan qui pouvaient pas parce qu'il y avait un événement. Alors tu t'y connais mieux que moi, Ring, mais il y avait un événement en avril de la New Japan qui n'y a pas cette année. Il y a pas un truc du genre. En tout cas, là, on voit que le partenariat Ring of Honor du New Japan tourne à plein pot parce que ça commence avec des mecs de la New Japan.
Bah clairement, la New Japan désormais a décidé de s'implanter aux États-Unis. Hein, donc, ils veulent attaquer le marché. Ils ont déjà fait leur G1 spécial USA qui a été un petit succès, même si au niveau de la production, c'était pas phénoménal. Hein. Il y avait quand même des ratés. Mais il y a aussi, à la Ring of Honor, il y a aussi pas mal de ratés quand ils lancent leur pay-per-view. Voilà, des choses par exemple qu'à la TNA, ils ont tellement plus de moyens. Mais bon, s'ils pouvaient présenter un spectacle comme on a là. Ce serait pas mal non plus. Mais effectivement, Kenny Omega qui revient un peu sur le sol américain, parce qu'apparemment, ces derniers temps, pour des raisons apparemment légales, il ne pouvait pas trop se déplacer jusqu'aux États-Unis, obligé de rester au Japon. Mais apparemment, donc ça se débloque. Après, il faut voir. Il est annoncé contre qui, Kenny Omega? Il y a
Y a pas non,
un adversaire déjà,
y a
pour
pas
l'instant,
d'affiche
non?
pour l'instant.
faut voir s'il est s'il va catcher en solo sur il aura sûrement une défense de titre de toute façon. Donc ça bah voilà, c'est ce qu'il faut à la Ring of Honor aussi pour booster un peu ses cartes, même si comme je disais ça fonctionne toujours très bien. Mais bon, il faut quand même se rappeler qu'ils ont été effectivement siphonnés par la WWE avec les départs d'Adam Cole, de Kyle O'Reilly, Bobby Fish qui était des sacrés piliers, Roderick Strong aussi. Donc il faut bien les Japonais pour venir un peu booster leurs cartes, parce que sinon on manque un peu de star power, même s'il y a Cody Rhodes qui est arrivé. Mais effectivement il y a une espèce de conglomérat là entre la New Japan et aussi les Mexicains de la CMLL qui sont là, et c'est la Rev Pro je crois, la fédération d'Angleterre, qui est aussi en partenariat. Tout ça circule beaucoup et ça commence à fonctionner comme il faut, et effectivement cette New Japan là qui veut rentrer sur le territoire américain, bah c'est bien en passant par la Ring of Honor que ça peut fonctionner aussi.
Et la
donc
salle
ça,
est deux,
c'est
la,
plutôt en ballon.
La salle est deux fois plus grande que l'an dernier, au minimum même, je pense un peu plus. Donc on
ah,
voit
ils font
quand
les,
même
les plus grosses salles. Hein.
Ils ont fait plein à Orlando avec qui avait Zack Sabre Jr. Il y avait les Young Bucks. Il y avait les Young Bucks contre les Hardys. Donc, niveau tête d'affiche, on peut pas faire.
Ouais, sur la super card of honor de l'année dernière, ouais.
Ouais.
Je sais plus c'était quoi les main event, mais il y aura peut-être plus de star power cette année, ouais, ça c'est sûr.
Donc voilà. Et la petite note, c'est que si tout se passe bien, j'en serai. Du coup, j'ai mon ticket, du coup, j'en serai parce que je serai à Mania l'an prochain, probablement avec Giscal. Donc voilà, on vous en reparlera de nos plans pour WrestleMania, mais on fera des trucs un peu spéciaux, des live Facebook et des trucs comme ça. On va passer au débat de la semaine.
On revient à la WWE. Hein.
On revient à la WWE. Ne partez pas, revenez.
Revenez,
on va reparler de la WWE. C'est ce débat qu'on a oublié depuis des semaines et des semaines, proposé par Camille Bourg, top dédicace. On va le faire cette fois-ci. Donc du coup, c'est sur NXT. La question, le système NXT fonctionne-t-il, et doit-on donner son indépendance à NXT pour finalement mieux faire fonctionner la machine et peut-être mieux faire fonctionner Raw et SmackDown qui ont peut-être un peu du mal à faire la transition. Qu'est-ce que t'en penses, Ringside ? Qu'est-ce que ton utopie ? Comment tu résoudrais le problème s'il y en a un ?
Pour moi, effectivement, il y a un souci, mais c'est pas un souci au final qui est vraiment très problématique, parce que effectivement, les superstars qui arrivent au top de NXT, quand elles arrivent dans le main roster, elles sont pas forcément récompensées, il y a pas forcément de suivi derrière. Ça matche pas toujours avec la direction et les choses comme ça. C'est pas parce qu'on a eu un succès à NXT qu'on a un succès garanti dans le main roster. Hein. On l'a vu avec Neville, on l'a vu avec Bo Dallas. Big E l'a quand même ramé un petit peu avant d'arriver au statut de superstar. Tout ça, c'était des anciens champions de NXT. Maintenant, c'est vrai qu'en partant du principe que NXT est une brand à part, ça pervertit un peu le truc. Donc ça crée un petit peu un monde parallèle où les règles sont finalement pas les mêmes qu'à la WWE. L'émission elle est beaucoup plus courte, donc c'est toujours beaucoup plus percutant qu'un road 3 heures. Maintenant, je pense que pour améliorer, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à améliorer? C'est ça en fait mon point, parce qu'on a des takeovers quand même qui sont assez énormissimes. Le spectacle il est toujours au rendez-vous, on n'a pas vu de takeover loupé depuis
Je pense plus d'améliorer sur la transition en fait.
Sur la transition, il y a pas de secret, hein. On n'est pas dans le même business. Au Japon, sur les rookies, ils ont cette technique de les envoyer à travers le monde. Après, une fois qu'ils ont été bien formés, qu'ils maîtrisent les bases techniques, etc., et ils savent apprendre à maîtriser les bases techniques à la New Japan, hein, c'est pas des Baron Corbin quoi qui débarquent dans le roster, hein, qui savent pas passer par-dessus une troisième corde ou des choses comme ça. Mais comme ça, ils se forment, ils vont créer des personnages ailleurs, au Mexique, en Angleterre, à la Ring of Honor, puis quand ils ont pas de chance, ils vont à la TNA. Et ça, voilà, ça permet de former des vrais catcheurs, parce que sinon, on reste toujours dans l'enceinte de la WWE. On est dans la formule WWE qui marche ou qui marche pas. Et on n'a pas forcément non plus... Moi, j'ai des grosses questions sur notamment l'apprentissage technique, parce qu'il y a des mecs qui débarquent quand même dans le roster. Je vais reprendre le cas de Baron Corbin. Enzo Amore, Big Cass, Nia Jax... C'est des gens quand même qui sont encore super green après avoir passé des années au Performance Center, à soi-disant maîtriser l'art dans tous les sens, avoir des cours, un matériel à disposition sans commune mesure. Au final, quand ils arrivent dans le même roster après des années à avoir pratiqué, ils sont encore super verts, ils savent pas quoi foutre dans le ring. Donc les promos sont pas toujours excellents. Donc il y a des choses qui fonctionnent à NXT, mais c'est souvent des gens qui viennent déjà de l'indie. Hein, des mecs comme Kevin Owens, des Sami Zayn. À l'heure actuelle, on a Adam Cole et compagnie. Ça fonctionne super bien, mais c'est des mecs qui n'ont rien à apprendre en vérité. Ils sont là juste dans l'antichambre avant de passer au roster supérieur. Les Drew McIntyre, c'est un mec qui a déjà fait les choses comme ça. Donc il y a ce produit de télé un petit peu NXT qui existe et qui fonctionne bien parce que visiblement Triple H il sait gérer. Et c'est peut-être finalement NXT, c'est peut-être le centre d'apprentissage de Triple H, hein, tout simplement, avant qu'il passe à prendre en main la WWE. Mais pour les catcheurs en eux-mêmes, j'ai pas l'impression que ce soit un truc particulièrement efficace. Je sais pas, on va prendre un gars, Mojo Rawley, qu'est-ce qu'il sait faire dans le ring? Rien du tout. T'as Noé José, ça fait aussi un certain temps qu'il est là. Il va arriver, si jamais ils le font passer au roster, qu'est-ce qu'il va faire dans le roster principal, quoi?
Il va danser.
C'est ça. Et le rookie qui a le plus fonctionné, qui a percuté tout de suite, c'est Braun Strowman. Braun Strowman n'est pas passé par NXT. Pareil pour Roman Reigns, pareil pour Dean Ambrose. Ces mecs-là n'ont pas eu besoin de passer
par NXT.
Ambrose,
il n'est pas passé par NXT
avoir...
Ah, je croyais.
Non. Non. Okay. Il n'y a guère que Rollins qui a eu son run de champion. Kevin Owens, c'est peut-être le plus gros succès, mais c'est pareil, Rollins et Owens, ils étaient déjà passés par la Ring of Honor, ils étaient déjà champions là-bas, donc ils n'avaient pas non plus grand-chose à apprendre à NXT. Je suis pas sûr qu'en lui-même, le centre de formation de NXT soit vraiment efficace. Hein.
Ouais.
C'est surtout ça la grande question. Donc je pense que le boulot à faire, il est surtout là, au niveau de ce centre en lui-même. Mais sinon, ça nous prépare, je pense, un Triple H qui sera bien calé quand ce sera l'heure de prendre les commandes de Raw et de SmackDown. Hein.
Après, je ne sais pas si Triple H va avoir les couilles de couper un Raw à 2 heures, de perdre du revenu pub, de...
Non, peut-être ça, il ne le fera pas. Limiter... Il faudra qu'il fasse toujours un Raw de 3 heures, c'est sûr. Hein. Mais...
Ouais.
Il aura peut-être des idées plus intéressantes et puis donnera peut-être sa chance à des personnes auxquelles Vince ne pense pas, hein, puisque Vince, il aime quoi qu'on en dise. Il faut toujours que ce soit cette grosse baraque. Hein. On voit bien que quand Big Cass était là, il fallait pocher Big Cass. Des mecs. Alors qu'est-ce qu'il attend pour pocher Drew McIntyre, hein? Il serait temps qu'il. Il a tout pour plaire, hein, Vince. Donc,
Oui, mais oui, c'est finalement le truc qui donne. Qui fait un peu la leçon à la WWE, c'est-à-dire que McIntyre, il a plongé au fil des années à la WWE et il a fallu qu'il parte pendant 2 ans, 3 ans, non plus.
C'est ça, ouais. Peut-être
3 ans,
plus,
3
même.
Ans minimum, je pense.
Ouais.
Il a fallu qu'il parte pendant 3 ans pour reprendre déjà le la musculature, clairement, il en a pris, mais surtout du charisme. Tout ce qui est psychologie qu'il fait beaucoup mieux maintenant c'est pas des choses qu'il a appris là-bas donc c'est vrai qu'il y a sûrement un souci là-dessus après j'allais dire NXT si on séparait NXT de la WWE et il faudrait quand même que NXT ait toujours un concept donc si c'est plus le développement ce serait les jeunes talents. Mais ça revient au même parce que si c'est des jeunes talents, faut les relâcher à un moment. Donc ils seront forcément relâchés dans le roster principal. Parce que c'est la WWE, hein, ils relâchent pas les gens comme ça. Donc c'est
ça. Tu as aussi un cas, par exemple, tu prends le cas de Juice Robinson, qui s'appelait CJ Parker à l'époque, je crois. C'était immonde à la NXT. Il est parti à la New Japan, en un an, ils en ont fait une superstar, et le mec dans le ring, maintenant, il est incroyable. Donc, voilà, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec lui pendant, pendant les 2, 3, 4, 5 ans, peut-être, où il est resté à NXT? C'est des bonnes questions. Moi, j'aurais pas parié un copec sur ce mec-là, hein, quand je l'ai vu débarquer à la New Japan. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'ils ont été signés, ce mec-là? S'il avait pété le nez de Kevin Owens quand Kevin Owens était arrivé pour son premier match. Et finalement, maintenant, c'est un mec extraordinaire dans le ring. Pour moi, leur centre de formation en lui-même est peut-être pas aussi percutant qu'ils veulent bien nous le vendre. Et ça se repose vachement sur des mecs qui ont été formés finalement en indie. Hein.
Oui, finalement, est-ce qu'ils ne devraient pas juste... Après, c'est dommage pour l'image de la WWE qui parle de recruter les gens, les graines de talent dès le départ et les faire pousser dans leur incubateur protégé du monde indé. Donc du coup, c'est un peu dommage pour cette image-là, mais finalement, est-ce que c'est pas la meilleure solution pour le futur de NXT ou le futur de la WWE de être assumé ce rôle du dernier stade la dernière marche du monde du catch
avant le grand bain.
Voilà. C'est-à-dire que il y a plus une question final, ouais. De dire c'est une superstar qui est née dans la WWE, etc. Non, on est juste, voilà, on est le plus grand spectacle là où on trouve les meilleurs et on va chercher les meilleurs partout mais quand ils sont à maturation, quoi. Donc, ce serait peut-être la révolution de Triple H. Ce serait peut-être ça.
C'est ça. Mais il y a un truc. Anonyme nous parle de Alexa Bliss, qui est une réussite. Hein, Maxence aussi nous parle de Noé José, qui effectivement, ça lui ferait du bien d'aller dans le main roster, effectivement. D'être dans le grand bain et de voir ce qu'il peut sortir. Parce que de toute façon, je pense qu'ils ne peuvent plus en faire grand-chose non plus à NXT.
Je pense que José, il peut battre Dolph Ziggler.
Ouais, tranquillement. Mais Alexa Bliss, Alexa Bliss, par contre, ça c'est autre chose effectivement qu'on peut aborder, c'est la réussite par contre au niveau des filles.
Oui.
Ça là-dessus, il y a pas à chier.
Banks n'avait pas de passé non
Bailey.
Plus. Hein.
Ouais, non. Voilà. Bailey, bon, peut-être que Asuka.
Bailey avait un peu d'expérience quand même, mais pas dans des faits très reconnus, mais.
Les Four Horsewomen, Charlotte aussi, hein, elle venait de la gymnastique, il n'y avait pas grand chose derrière. Ça, par contre, sur le travail qu'ils font au niveau des filles, là, on voit des progressions et on voit que ça fonctionne bien. C'est peut-être ça, par contre, là, la vraie réussite de NXT. Mais alors, c'est pareil, ça ne suit pas après à Monday Night Raw, hein, parce que finalement, on a Alexa Bliss qui cartonne effectivement. Mais par contre, du coup, il y a une place pour une personne, quoi. C'est Alexa Bliss, et après les autres, elles sont un peu recadrées en dessous. Normalement, bon, on devrait avoir une rivalité avec les Four Horsewomen de l'UFC, donc ça devrait remettre en avant Charlotte et compagnie. Mais on voit bien qu'ils n'ont pas du tout la même politique au niveau des filles entre NXT et le roster principal. Hein. Il y a un effort qui a été fait dans le roster, mais ça reste quand même quelque chose où les spots sont limités, où on est encore un peu sur les mêmes vieilles rengaines.
Et à NXT, j'ai encore vu il n'y a pas très longtemps, c'était qui ? C'était Billy Kay, je crois, contre... Je vais dire une connerie, Billy Kay contre Nikki Cross ou un truc comme ça. Enfin, mais on voit que ils offrent de temps en temps aux filles une opportunité. Mais c'est pas le vieux mot de la WWE tout le temps, les opportunités. Là, à NXT, c'est vrai, c'est-à-dire que ils peuvent une semaine décider, pendant les enregistrements, ils décident, il y aura une bleue contre une un peu plus expérimentée, paf, 15 minutes, quoi. Ou 10-15 minutes, mais un vrai match. Après, pas toujours de très bonne qualité, mais elles ont le temps de faire quelque chose. Et généralement, le match peut pas être 10 minutes de match. Il y a toujours quelque chose à retenir, etc. Et elles ont le temps de comprendre ce qui allait pas, etc. À Raw, c'est elles ont généralement 5 minutes. Elles ont de la chance. Il y a pas 4 personnes dans le ring. Hein.
C'est ça.
Donc voilà, ils ont, c'est fini. Enfin, pour le coup, c'est fini la formation, quoi, Aro. Et il y en a certaines où on a l'impression que, bah ouais, on dit genre ah, elle s'améliore de semaine en semaine, mais c'est pas normal. Mmh. Enfin, si, bien sûr, tu peux un peu t'améliorer, mais ce que je veux dire, s'améliorer de pas terrible à bien, c'est pas à Monday Night Raw que ça doit se passer. Donc c'est vrai que c'est dommage et. Le souci aussi, c'est que, enfin, mais ça c'est un thème plus global pour la WWE, c'est que NXT fonctionne et est sûrement le produit préféré des fans de catch parce que on nous donne tout rapide, enfin tout, dès qu'on nous montre quelqu'un, les choses se passent rapidement. C'est-à-dire que si Bayley a rien à faire cette semaine-là, elle sera pas là. C'est pas, on va pas essayer de la mettre dans une séquence en train de parler à je sais qui dans le backstage. On va pas essayer de la faire parler au micro au milieu de la scène pour dire rien du tout. Genre, j'aurai un match la semaine prochaine. Non, on s'en fout. Mmh. Autant
mettre au commentaire des matchs.
Voilà. Donc, le rythme de NXT est génial dans ce sens-là parce que chaque semaine, il y a un roulement. On voit pas forcément les mêmes personnes. Au maximum, on voit aller deux ou trois personnes en commun d'une semaine à l'autre. Mais sinon, il y a un roulement en permanence, ce qui fait que ça rend les choses fraîches en permanence. À Monday Night Raw, l'émission dure 3 heures, donc tout le monde doit être là toutes les semaines. Et même si on a rien à dire, et ben on va parler. Et même si on n'a pas de match à enjeu à faire, on va faire un match. Et c'est ça finalement qui. Au-delà de l'écriture, de la mauvaise écriture des personnages, je pense que c'est ça qui les tue encore plus. C'est juste qu'on les voit toutes les semaines et du coup, l'excitation est plus là pour Bayley. L'excitation est. Pour Charlotte, ça fonctionne parce que Charlotte est fantastique dans le ring. Enfin, Bayley est bonne dans le ring, mais je pense quand même qu'elle est en dessous de Banks, de Charlotte. Et puis, Charlotte sait tenir un micro et elle a réussi à prendre le rythme. Banks c'est tenir le micro seulement quand elle est méchante, donc ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans qu'elle est dans le roster principal et qu'elle est en face et donc du coup qu'elle est mauvaise au micro et voilà donc oui je la meilleure entre guillemets solution pour sauver les superstars d'NXT ou du moins la transition, etc., c'est que ils réussissent à faire un format de Monday Night Raw où on voit moins les superstars, enfin, où il y a un meilleur rythme.
C'est effectivement urgent hein, parce que l'overexposition, comme on dit, ça tue effectivement pas mal de catcheurs. Par exemple, on va prendre le cas de Bobby Roode qui, même s'ils l'ont mis de côté quand même à quelques semaines. Déjà, ils le font venir en face, donc déjà bravo, alors qu'il a fait ses preuves en tant que heel, il est vendu comme heel, et il vient pour faire une rivalité avec Dolph Ziggler. Il faut faire du remplissage toutes les semaines, alors que les segments sont pas bons, qu'on voit déjà que ça fonctionne pas, mais on va en remettre une couche la semaine suivante quand même. Le match a déjà eu lieu, c'était pas très intéressant. Et voilà comment on tue un mec qui était au top de la gloire à NXT quoi, en quelques semaines. Et c'est bien ça le souci, alors qu'ils ont un roster quand même qui est énorme. Et par exemple, l'ajout des Cruiserweights aurait pu être effectivement quelque chose de super bénéfique dans le sens où ils auraient pu faire pas mal de remplissage en mettant juste des matchs spectaculaires entre les uns et les autres. Mais ils n'ont pas fait ça, ils ont fait autre chose avec les Cruisers qui est assez immonde. Et ça ne fait que pilonner encore un peu plus les émissions d'Euro, donner des longueurs. Le problème, il n'est pas tant à NXT qu'à Raw. Et il faudrait qu'ils se mettent vraiment. On sent c'est vraiment deux équipes séparées entre ce qui se passe sur le network, ce qui se passe sur NXT et ce qu'ils font à Raw. Après, on sait que Raw, c'est beaucoup plus bordélique. Trois heures à faire, ils ont vraiment du mal. Faut enchaîner sur SmackDown. T'as encore Main Event à faire dans la foulée. C'est pour ça aussi qu'ils ont arrêté par exemple Talking Smack ou les choses comme ça. C'est que à la fin des shows, il fallait encore enchaîner, faire venir les catcheurs pour aller discuter, rester dans le personnage après les shows. C'était aussi encore toute une machinerie. C'est quand même un sacré gros bordel organisé, quoi. Hein. Faut pas croire que c'est millimétré comme une série télé, etc. Hein. Ça change de ville toutes les semaines. Faut faire, par exemple, avec une méningite virale qui débarque, des blessures, des trucs, les conflits d'ego. Donc voilà, c'est vraiment pas aussi simple que de faire les émissions d'une heure de NXT. Mais alors maintenant, ils se tirent un peu la bourre l'un à l'autre. Il faudrait vraiment qu'il y ait une corrélation qui soit faite entre les deux, et parce qu'ils vendent pas vraiment le même produit, hein, au final, entre les deux. Et on sent que la philosophie derrière n'est pas la même. Et ça, c'est le conflit d'ego entre, je pense, Kevin Dunn, l'homme à tout faire de Vince, et Triple H, qui, je pense, qu'ils sont en train tout doucement de se disputer le gâteau, quoi, hein, une fois que papy sera définitivement parti. Mais je suis pas sûr qu'il va partir tout de suite, Vince, donc
il ne mourra jamais. Voilà, c'est tout pour ce Talking Catch numéro 8, si je ne me trompe pas, je ne sais plus parler.
4.
Je remercie Ringside d'avoir été là.
Je t'en prie, merci à toi d'avoir animé tout ça, de préparer l'émission, réaliser, monter,
et oui, réalisation, son et lumière. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur iTunes, sur PodCloud, et bien sûr sur YouTube, où nous faisons des diffusions en live. On va essayer d'améliorer un petit peu la technique. Peut-être des moments l'image se fige un peu, des moments le son est pas terrible, mais on essaie d'améliorer ça. Et puis on vous dit bonne semaine pleine de catch, bon pay-per-view pour TLC. N'oubliez pas Catch Pro. Oui, bon TLC. Catch Pro en début de semaine. Ou au milieu, début de semaine, et supplément SmackDown juste après. On est super professionnel. Abonnez-vous à nous, likez la vidéo.
Voilà, abonnez-vous surtout, c'est gratos. Vous cliquez en haut à droite là sur YouTube,
likez la vidéo, et puis voilà. En plus, nous on vous met même pas de pub, on est vraiment trop sympa. Donc partagez tout ce que vous pouvez de catch-up pour qu'on soit tous ensemble réunis sous une même bannière. Allez, gros bisous et bonne semaine pleine de catch.
Ciao, ciao.